Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
La personne de Jésus-Christ demeure au cœur du message de la Bible et de la foi chrétienne. Il est donc essentiel de comprendre sa vie et son enseignement, ainsi que le sens de sa mort et de sa résurrection.
C'est dans cette optique que nous poursuivons aujourd'hui notre étude sur l'Évangile de Marc. Nous abordons le chapitre 13, mais avant de lire le texte pour aujourd'hui, je voudrais souhaiter la bienvenue à Robert qui va nous aider à mieux comprendre l'enseignement de Jésus. Robert, bonjour.
Bonjour Yann, et bonjour à tous. Jésus se trouve à Jérusalem et il s'entretient avec ses disciples. Il leur parle des événements à venir. Dans 2 ou 3 jours, il va mourir sur une croix. Toutefois, il leur évoque un avenir plus lointain encore. Il leur parle de l'âge qui s'étend de sa résurrection jusqu'à son retour en gloire. En fait, il s'agit de l'âge présent que nous traversons actuellement.
Merci pour ce rappel en guise d'introduction. Le moment est venu d'écouter notre lectrice. Elle va nous lire Marc, chapitre 13, versets 9 à 13.
Quant à vous, faites attention à vous-même. On vous traduira devant les tribunaux des Juifs. On vous fouettera dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et des rois à cause de moi, pour leur apporter un témoignage. Il faut avant tout que la bonne nouvelle soit annoncée à toutes les nations. Quand on vous emmènera pour vous traduire devant les autorités, ne vous inquiétez pas à l'avance de ce que vous direz, mais dites simplement ce qui vous sera donné au moment même, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son propre frère pour le faire condamner à mort, et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi, mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé.
Jésus est très direct. Il ne cache pas les dures réalités auxquelles ses disciples devront faire face.
Vous avez raison, Yann. Dans cet extrait du discours de Jésus touchant l'avenir, Jésus évoque des réalités telles que l'opposition et même la persécution. Les disciples pensaient peut-être que le royaume de Dieu avancerait toujours sans problème majeur. Mais voilà que Jésus ne leur laisse aucun doute. Le message de la bonne nouvelle ne sera pas bien accueilli par tous. Il suscitera une forte opposition et des conflits.
Et les événements le prouvent bien.
Oh oui, 2 jours après ces avertissements, Jésus lui-même sera emmené devant les tribunaux et injustement condamné à mourir sur une croix romaine. Après sa résurrection, Jésus enverra ses apôtres témoigner de cette bonne nouvelle, d'abord à Jérusalem et ensuite à toutes les nations de la terre. Le livre, appelé les Actes des Apôtres, relate leur progrès dans cette tâche, mais raconte aussi la persécution qu'ils ont endurée. Nous apprenons que les paroles de Jésus se sont réalisées. Certains disciples furent emmenés devant les instances juives ou des tribunaux à Rome. Certains furent emprisonnés pour des durées plus ou moins longues. Certains furent battus ou fouettés, d'autres tués. Étienne, par exemple, a été lapidé par la foule devant les murailles de Jérusalem, et Jacques, tué par l'épée sous les ordres du roi Hérode.
Et la persécution des chrétiens est une réalité qui perdure à travers tous les siècles, jusqu'à nos jours.
Oui, même aujourd'hui, les chrétiens sont l'objet de violences, simplement à cause de leur foi. Il existe encore des États qui s'opposent à l'Église, des États qui emprisonnent les chrétiens ou pratiquent la discrimination. Il existe également des mouvements extrémistes qui commettent des atrocités contre les communautés chrétiennes. Et comme l'exprime Jésus, la famille peut aussi être à l'origine de la persécution. C'est triste à constater, mais dans certains milieux, si une personne met sa confiance en Jésus, sa propre famille peut se tourner contre elle, la mettre à la porte ou faire pire.
Jésus nous place devant ces réalités afin, sans doute, qu'elles ne nous surprennent pas.
C'est exact, Yann.
Mais lui donne-t-il des conseils pour savoir quelle démarche adopter lorsque nous sommes confrontés à la persécution?
Oui, Le texte, me semble-t-il, nous en donne au moins deux. D'une part, Jésus nous demande de faire attention à nous-mêmes. Mais d'autre part, il nous exhorte à la persévérance dans l'annonce courageuse de la bonne nouvelle aux nations.
Ces deux conseils semblent être en contradiction l'un avec l'autre. Car si l'on fait attention à sa propre sécurité, on aura tendance à ne plus annoncer la bonne nouvelle, mais à rester silencieux, afin d'éviter les ennuis.
Oui, c'est le dilemme auquel sont confrontés ceux et celles qui vivent dans des régions à fort risque de persécution. Il faut trouver un juste équilibre, user de sagesse, mais aussi puiser du courage auprès de Dieu. Il n'est pas prudent de délibérément chercher la persécution en provoquant les autres. Toutefois, Jésus nous appelle à être des témoins fidèles, et des situations se présenteront où il sera nécessaire d'afficher sa foi, de ne pas la nier, même si cela devient dangereux. Il est important de prier pour nos frères et sœurs éprouvés par la persécution, de prier pour que Dieu leur accorde de la sagesse, du discernement et du courage. Prions pour qu'ils tiennent ferme dans la foi et qu'ils ne renoncent pas à Jésus. Prions que leur témoignage fidèle interpelle leurs persécuteurs.
Merci. Oui, il est essentiel d'exprimer notre solidarité envers l'Église persécutée et de prier pour elle. Robert, Jésus donne-t-il des promesses pour encourager les chrétiens persécutés?
J'en vois deux. D'abord, Jésus nous demande de ne pas nous inquiéter de ce que nous dirons si nous nous trouvons harcelés, accusés ou interrogés par des opposants virulents. En de telles circonstances, le Saint-Esprit viendra à notre secours et il nous donnera les bonnes paroles à prononcer. Ceci est une promesse. Une fois de plus, le livre des Actes des Apôtres nous montre que Jésus est fidèle à ses promesses. Ce livre nous donne des exemples de discours sages et courageux prononcés par les disciples lorsqu'ils furent emmenés devant les autorités. Et les chrétiens, à travers tous les siècles, certifient que cela est vrai pour eux aussi. Le Saint-Esprit nous aide à trouver les mots justes, forts et vrais, même dans les situations les plus dangereuses.
Et quelle est la deuxième promesse que vous avez repérée?
Celui qui demeure fidèle à Jésus finira par être sauvé. La mort violente d'un croyant est un paradoxe. En effet, elle est tragique et s'apparente à une défaite qui laisse à penser que le mal a triomphé. Cependant, c'est par la mort que le chrétien est enfin libéré des maux et des malheurs de ce monde. C'est par la mort que le chrétien entrera à la fin de cet âge présent dans la réalité triomphante et extraordinaire de la résurrection à la vie éternelle. La mort n'est pas la fin. La plénitude de notre salut nous attend. Dieu créera toutes choses nouvelles, les cieux et la terre. Dieu redressera tous les torts et il bannira le mal et le malheur de la nouvelle création. Nous vivrons éternellement avec lui. Nous jouirons de la paix et de la joie, de la sécurité, de la justice et de la vraie prospérité. Les ennemis de Christ s'en prennent à l'Église et ils pensent triompher sur elle. Ils se moquent d'elle et de Jésus. Cependant, les choses ne dureront pas ainsi. Le jour arrivera où Christ reviendra dans sa gloire. Il est le juge éternel et il anéantira ses ennemis. Et ces derniers n'auront plus l'occasion de rire de lui. Jésus nous promet ces choses. Et l'apôtre Pierre répète ses promesses dans sa première lettre. Car Christ a préparé pour nous un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se corrompre, ni perdre de sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans les cieux, vous qu'il garde par sa puissance au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment de la fin. Chers amis, tenez ferme dans votre foi, nourris et fortifiés par cette espérance merveilleuse.
Merci Robert. Nous allons à présent commencer notre courte méditation biblique et nous continuons sur ce même thème. Comment attendre le retour de Jésus-Christ? L'apôtre Pierre a aussi écrit à ce sujet au chapitre 3 de sa deuxième épître. Claude va nous aider à mieux comprendre ses écrits. Mais d'abord, cédons la parole à Sandra pour la lecture des versets 3 à 7.
Mais il y a un fait que vous ne devez pas oublier, mes chers amis. C'est que pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur n'est pas en retard dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains se l'imaginent. Il fait simplement preuve de patience à votre égard, car il ne veut pas qu'un seul périsse. Il voudrait au contraire que tous parviennent à se convertir.
Chers amis, bonjour. Jésus a déclaré qu'un jour il reviendra en juge et en sauveur. Et voici que 2000 ans d'histoire se sont écoulés depuis cette promesse, et pourtant, elle ne s'est pas encore réalisée. De ce fait, les incrédules peuvent nous ridiculiser et se moquer de Dieu. En tant que croyants, nous pouvons aussi nous demander pourquoi le Seigneur tarde à venir alors que nous désirons tant être avec lui. L'apôtre Pierre, dans les versets lus, nous donne deux éléments de réponse à ces interrogations. D'abord, il nous rappelle que Dieu ne ressent pas le passage du temps tel que nous le vivons. Dieu est éternel et il habite l'éternité. Nous ne pouvons pas imaginer ce que cela représente. Cela est si différent. Nous sommes si limités par le temps, mais Dieu, lui, est éternel. Il accomplira ses promesses au moment de son choix. Ensuite, Pierre nous apprend que ce qui motive ce délai du retour de Jésus-Christ, c'est la miséricorde de Dieu pour les hommes et les femmes. De fait, le jour où Jésus reviendra, les gens n'auront plus l'occasion de se tourner vers lui, car alors il sera trop tard. Dieu, dans sa grâce, use de patience. Il attend que le plus grand nombre vienne mettre leur foi en Jésus. Il est triste de constater que les incrédules se moquent de Dieu parce que Jésus ne revient pas, alors qu'en réalité, Jésus tarde pour justement donner à ces mêmes personnes l'occasion de changer et de se repentir. Enfin, chers amis croyants, au lieu de nous plaindre que Jésus tarde à venir, nous devrions suivre son exemple de compassion, de patience et de grâce, particulièrement envers ceux qui sont encore incrédules, y compris les moqueurs. Comme le rappelle Pierre, si ces personnes ne changent pas, elles périront. Nous pouvons redoubler d'efforts pour faire connaître la bonne nouvelle autour de nous. Nous pouvons endurer le ridicule et les moqueries dans l'espoir que certains saisiront l'occasion d'échapper à la perdition pour découvrir la grâce de Dieu et l'espérance du salut.
Merci Claude. Nos deux invités seront de retour la prochaine fois pour poursuivre nos deux séries qui orientent nos pensées vers l'avenir. En attendant de vous retrouver, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.